Bienvenue dans la télévision du monde mondial.
Bonjour. Après la nuit cyber qui s'est terminée tôt ce matin, bienvenue dans Cyberculture spéciale politique. La politique, apparemment les jeux vidéo n'en parlent jamais. Ou alors c'est très rare. Pourtant, vous connaissez tous le message des guignols. Le vrai pouvoir, il n'est ni en France, ni même à Bruxelles, mais bien aux États-Unis dans la World Company.
World Company a pour but le bonheur du monde.
Et en fait, mine de rien, la majorité des jeux vidéo se passent aux États-Unis. Leur décor principal, c'est celui de Cyberculture aujourd'hui, c'est la petite ville américaine. La politique de l'État, quel rapport avec le cyber? Aux États-Unis, Internet est déjà un sujet politique. Et qu'en pensent les hommes politiques français? Les pirates sont-ils tous des anarchistes? Pour Philippe Breton, le cyber, c'est politique. Surprise!
Encore une fois, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les résidents de SimCity.
Le jeu le plus célèbre et le plus clairement politique, c'est SimCity, le simulateur de ville. Inventé en 1987 par Bill Wright, il a connu plusieurs versions, dont une sur CD-ROM.
Oh, vous êtes amnésique ?
Pas du tout. SimCity est encore utilisé dans les écoles et les universités comme modèle de simulation.
Le budget est trop court. Et avec ce qui me reste, je n'arrive pas à joindre les deux.
Le principe est simple. On est maire d'une ville, il faut construire et gérer.
J'avais oublié toutes vos promesses électorales encore.
On crée des impôts, on dialogue avec les citoyens et on évite les catastrophes.
Monsieur le maire, si vous écoutez, nous avons besoin de vous.
SimCity, même dans sa version française, pourrait s'appeler SimUS City. Parce que comme en Amérique, les rues se croisent toujours à angle droit et qu'on développe l'économie et les industries toujours sur le modèle américain.
Une explosion nucléaire s'est produite non loin de notre centre commercial. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de parking payant.
Peut-être qu'un jour, il y aura le jeu Sim Cyber, où l'on apprendra comment développer le cyber dans un pays. Pour bien y jouer, voici quelques clés.
Camarade cybernaute, votre passion vous procure un sentiment de liberté totale. Pas de limitation de vitesse en ville, pas de prison pour les assassins et pas de diplôme pour accéder au serveur internet de l'école polytechnique. Avec votre ordinateur multimédia complet, vous nagez en pleine utopie libérale. Pourtant, sans vous en rendre compte, à chaque instant de votre vie cyber, vous rencontrez l'État. D'abord à la caisse. Si vous n'avez pas eu la science d'attendre de longues heures pour voir l'exposition Cézanne, vous vous êtes peut-être consolé en achetant le catalogue ou même le CD-ROM. La TVA qui s'applique à ces deux produits hautement culturels est un impôt et c'est l'État qui le met en place. Elle n'est pas calculée de la même façon pour les deux. En achetant le CD-ROM 295 francs, vous donnez 60 francs à l'État. Pour le catalogue à 350 francs, vous donnez 17 francs à l'État. Pour vous connecter à Internet, vous empruntez les lignes téléphoniques de France Télécom qui dispose d'un monopole d'État jusqu'en 1998. Et ça, ça vous coûte cher. Une taxe de base toutes les 3 minutes, soit un peu plus de 14 francs de l'heure. Ce petit vélo représente le prix d'une heure de conversation. Depuis 10 ans, il monte, et ça, c'est l'État qui décide. Cet autre petit vélo, c'est le prix du mégaoctet de disque dur sur la même période. Il baisse, et là, c'est le marché qui décide. Récapitulons en revenant au grand maître Paul Cézanne. En agissant sur les prix, l'État peut décider de soutenir plutôt le catalogue, ou le CD-ROM, ou encore le serveur Internet.
Et combien de temps ? 5.
Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi l'éducation. Et dans ce domaine, l'État a la responsabilité des établissements scolaires publics. Il peut donc décider d'y installer des ordinateurs, ce qui fut le cas en 85 avec le plan informatique pour tous proposé par Laurent Fabius. L'État choisit le TO7 de Thomson, ce qui fut considéré comme une erreur. Néanmoins, certains gardent un très bon souvenir de cette époque.
Ça a créé toute une génération de créateurs de jeux, de produits multimédia, que ce soit des programmeurs, des graphistes, des scénaristes, toute une génération d'autodidactes qui constituent les équipes qui sont les sociétés françaises qui fabriquent les produits d'aujourd'hui.
Depuis, les TO7 n'ont pas toujours été remplacés dans les établissements scolaires. Et puis l'État doit veiller au respect des lois et des libertés publiques en empêchant la diffusion d'informations incitant à la haine raciale, au terrorisme, ainsi que certaines formes de pornographie. Ce fut possible pour le Minitel en raison de sa diffusion hexagonale, mais il n'en va pas de même pour Internet qui ne connaît pas les frontières. L'exemple récent du retrait des newsgroups pornographiques par CompuServe suite à une décision de justice d'un petit tribunal allemand est un cas unique de censure sur Internet. Pour juguler la libre parole du réseau et ses excès, un État doit s'entendre avec tous les autres. En agissant sur les prix, l'éducation et la censure, l'État influence directement vos choix.
SimTown, c'est SimCity en version enfant. Pour que les jeunes du monde entier apprennent à construire une petite ville de banlieue chic aux États-Unis. Mais là-bas, la banlieue, c'est là où vivent les bourges, alors que les pauvres habitent dans les centres-villes. Imaginez un enfant français qui ne serait jamais sorti de chez lui et qui passerait son temps à jouer à SimTown. Eh bien, dans une ville française, il serait complètement paumé. C'est de l'endoctrinement stop. Pourtant, la plupart des hommes politiques américains se foutent encore des jeux vidéo et du multimédia. En revanche, ils s'intéressent de très très près à Internet.
Pour la première fois en 1992, lors de la campagne présidentielle, la technologie devient un argument électoral. Al Gore, futur vice-président, fait découvrir à l'Amérique tout entière une nouvelle expression, les autoroutes de l'information. Dans son programme, il propose d'équiper toutes les écoles d'un micro relié à Internet. Depuis 4 ans, le dossier cyber a été pris en main par le gratin des politiciens. D'abord parce que l'explosion d'Internet s'est trouvée confrontée au premier amendement de la Constitution américaine, la liberté d'expression.
D'un point de vue politique, cette affaire est assez compliquée, parce qu'elle se trouve au centre d'un vieux débat aux États-Unis. D'un côté, il y a ceux qui pensent que le droit de la libre expression est sacré et qui sont prêts à se battre pour préserver ce principe. Et de l'autre côté, ceux qui s'en moquent et qui ont des raisons diverses de le remettre en cause.
Le sujet sensible numéro un, c'est évidemment Internet et la pornographie, voire la pédophilie. Dans ce pays très puritain où l'adultère et le harcèlement sexuel sont des sujets traités dans les hautes sphères de l'État, les politiciens de tous bords étaient obligés de s'intéresser à la censure sur les réseaux. D'autant plus que la sécurité du pays pourrait être menacée. L'attentat d'Oklahoma City en avril dernier a ébranlé l'opinion américaine à l'idée que des réseaux de terroristes pouvaient se créer ou communiquer grâce à Internet. Donc cet été, le sénateur démocrate Exxon a fait voter au Sénat un projet de loi visant à interdire les propos indécents sur le net. Indécent, un terme trop vague qui a choqué une partie de l'opinion. Et quelques semaines plus tard, un des leaders de la droite, le sénateur républicain Gingrich, faisait voter à la Chambre des représentants un projet de loi diamétralement opposé. Aujourd'hui, la situation politique est toujours bloquée.
C'est une division politique intéressante dans le camp des conservateurs par rapport à la proposition de loi Exxon. Ce qui se passe, c'est que le sénateur Gingrich maîtrise bien Internet, alors qu'Exxon est un peu trop âgé et n'y connaît pas grand-chose. Gingrich a décidé que séduire l'électorat utilisateur d'Internet était plus important que de contenter la branche conservatrice qui veut censurer le sexe sur Internet.
Le sénateur Gingrich n'est pas le seul à vouloir tirer profit d'Internet. Tous les candidats, même le sénateur Exxon, ont créé leur site ou figurent sur celui de leur parti. On peut lire leur programme, connaître leur parcours politique et même créer un joli poster pour soutenir, par exemple, Bob Dole.
C'est un moyen de présenter son message d'une façon différente par rapport aux méthodes traditionnelles comme le papier ou la télévision. Les destinataires de ces messages peuvent donner leur avis et c'est très utile pour un politicien d'avoir ce type de relation. Cela leur permet aussi de s'occuper de leur électorat ou au moins d'en donner l'impression. D'un autre côté, c'est nouveau. Et des politiciens, comme tout le monde, aiment être associés à la nouveauté et aux idées à la mode. Internet est le successeur parfait de la conquête spatiale, des programmes militaires, et même plus que tout, cela améliore l'infrastructure de communication dans ce pays.
Il y a 10 ans, confrontés à une forte concurrence mondiale, les États-Unis risquaient de perdre leur suprématie technologique. Avec Internet, les hommes politiques américains pensent avoir trouvé un moyen de faire rayonner l'Amérique et, pourquoi pas une nouvelle fois, de décrocher la Lune.
On your mark, get set,
Quand on n'est pas américain, on ne possède pas toutes les clés pour coder les jeux vidéo. Bien sûr, la plus grande partie d'un jeu reste compréhensible par toute la planète. Là, une course effrénée de vélos, de skateboards, de rollers ou de luges dans les rues de San Francisco. Il faut rester sur la route, éviter les obstacles, ne pas tomber et en profiter pour castagner tous les autres concurrents. Ça, c'est universel. Mais regardez le titre de ce jeu sur PlayStation. ESPN. Ça ne vous dit rien si vous n'êtes pas américain. Eh bien, ESPN, c'est le nom de la chaîne de sport la plus populaire des États-Unis. En Europe, le jeu aurait pu s'appeler Eurosport Extreme Sport. Et si on ne fait rien, ce sera de plus en plus comme ça. Nous avons demandé à des personnalités politiques françaises ce qu'elles pensent du faire. Réponse.
Faut pas regarder ça comme un gadget dont on ne voudrait pas, ça s'imposera en nous en termes de technique, donc par conséquent, il faut le regarder avec raison.
C'est comme les radios libres. Est-ce que vous pensez que l'on va laisser cette manne extraordinaire, surtout si elle continue à se développer, à la seule liberté comme ça des individus?
Nous auditionnons une bonne partie des acteurs mondiaux. Tous souhaitent quand même des règles du jeu, parce que sans règles du jeu, ils se rendent bien compte que ça va très vite devenir ingérable.
Le plus grand réseau informatique du monde donne le vertige à nos politiques. Si l'Assemblée nationale et le Sénat viennent d'ouvrir des sites sur le web, rares sont les élus français qui connaissent réellement Internet. À la sortie de l'hémicycle, les députés lisent encore les dépêches AFP sur du papier. Le téléscripteur n'est pas prêt d'être remplacé par des ordinateurs. Au ministère des Postes et des Télécommunications, on a également développé un serveur. En France, le débat sur la régulation a pris du retard. Le gouvernement commence seulement à s'interroger.
On ne pourra rien faire sans qu'il y ait une conférence internationale sur le sujet. Et vous imaginez bien que tout ça va prendre énormément de temps pour mettre d'accord des pays qui sont pour certains très concernés, les États-Unis, parce que le phénomène y est déjà très développé, et d'autres pour lesquels ils sont à des années-lumière de se préoccuper de ces affaires.
La tâche s'annonce longue. Les gouvernements ont par exemple mis 50 ans pour élaborer le droit international de la mer.
Actuellement, ces réseaux, ces autoroutes de l'information, les réseaux mondiaux, sont des réseaux américains, et à partir de là, une réglementation américaine automatiquement s'applique au monde entier. Car des serveurs ne vont pas se mettre à produire pour le seul marché européen en l'état d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous suivons très près ce qui se passe au plan de l'Europe pour qu'il y ait une réglementation européenne, car c'est alors vraiment en matière d'exception culturelle, et pour l'Europe entière, je ne parle pas pays par pays, c'est une condition de survie.
Pour développer les serveurs en français, le gouvernement vient de créer un fonds d'aide à l'édition de 30 millions de francs. C'est peu, mais ça devrait aider quelques associations, entreprises ou journaux à créer leur site. L'autre débat porte sur la liberté d'expression. Nos voisins allemands ont pris une longueur d'avance avec le premier acte de censure de la pornographie. Le législateur doit-il définir un code de la route? Va-t-on voir des flics patrouiller sur les autoroutes de l'information?
Moi, je suis assez sceptique sur cette idée. Le CSA peut contrôler. Et encore, il pourra sans doute plus le faire demain avec la télévision numérique par satellite, il peut contrôler des émissions qui sont produites par des chaînes de télévision qui sont installées dans notre pays. Il ne pourra pas contrôler, en tout cas il ne pourra pas sanctionner des serveurs qui seront partout dans le monde, sauf sur le territoire national.
Moi je ne suis pas un censeur en général, sauf qu'il y a des choses intolérables, Umberto Eco l'a dit. Pour être en démocratie, il faut fixer les bornes de ce qui est intolérable. C'est la condition de la tolérance.
Et par exemple, ces bornes, alors,
les bornes, c'est tout ce qui porte atteinte à l'intégrité humaine.
En France, le débat sur ces bouleversements commence à peine, car pour l'heure, il faut connecter le plus de monde possible. Le gouvernement vient d'ailleurs de faire baisser les tarifs de France Télécom, mais ça reste encore très cher. Si avec notre Minitel, nous étions un temps champion du monde en matière de télématique, il faut rattraper le retard, notamment dès l'école.
Le problème est financier. Le retard accumulé est important, et la rapidité avec laquelle les matériels, les standards changent, font que l'éducation nationale ne pourra jamais trouver les moyens de financer un parc d'ordinateurs qui correspond aux besoins. Donc il faut impérativement que les industriels nous aident.
Et le ministre d'annoncer que de nombreuses écoles dans toute la France seront prochainement connectées. Il était temps.
Et on retrouve Cyberculture juste après la pub. Le décor de Full Throttle, c'est justement les petites villes du désert américain. Un look dessin animé, de l'humour et un bon scénario, voici tous les ingrédients du succès des jeux d'aventure de Lucas. Le Lucas de la guerre des étoiles. Ben, le héros, est un vrai motard.
Il y a un problème ?
Bah oui, il est accusé d'un meurtre qu'il n'a évidemment pas commis. Pour sauver sa peau, il va enquêter parmi les bandes de loups-bas.
Personne ne peut m'arrêter.
Ambiance road game à la Easy Rider.
En route, les gars !
Et avec en plus de la musique heavy metal. Les Hells Angels sont peut-être à la route ce que les pirates sont à l'informatique.
Je ferais mieux de m'arracher.
Le hacker se veut l'anarchiste de la cyberculture, la solution de contre-pouvoir au gouvernement totalitaire décrit dans 1984. Mais souvent, il pirate pour la frime ou pour le fric.
Tout ce qui est créé par le pouvoir, par ce qu'on appelle le pouvoir, en fait, qui est donc la société, en fait, ou le gouvernement, obligatoirement, on a besoin de montrer qu'on est capable. On a besoin de montrer qu'on est capable de contrôler. On supporte pas le fait de dépendre d'un système. Et les seules personnes qui sont capables de faire des révolutions dans ce système sont ce qu'on appelle aujourd'hui nous les hackers. C'est-à-dire ces personnes qui sont capables de casser ce système d'information, de récupérer les systèmes d'information, de détourner les systèmes d'information. Pourquoi je vais essayer de détourner France Télécom? Parce que France Télécom coûte trop cher. Pourquoi je vais essayer de pirater un logiciel? Parce que ça coûte trop cher. Moi, je fais partie d'une barre de la scène, c'est-à-dire que je fais partie de tout ce qui est piratage en général, donc hacking, fracking, cracking et tout ce qui va autour. Je suis quelqu'un qui dure, c'est-à-dire qu'en général, la vie d'un mec qui fait partie de la scène, c'est entre 2 et 5 ans, jamais plus. Moi, ça fait 20 ans que j'existe. Sur la scène, je suis quelqu'un d'aussi connu, voire plus connu, que le président de la République en France. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu fais ça depuis longtemps, c'est une réelle drogue. C'est-à-dire que tu deviens complètement accro. Je suis un passionné d'informatique, j'ai besoin d'échanger des informations, j'ai besoin d'échanger des données, j'ai besoin de discuter avec des mecs, d'avoir des réflexions. Comme moi, j'ai besoin de ça, parce que ça fait partie de moi, je suis obligé de me démerder pour détourner les télécoms. Dieu nous est apparu, et Dieu sait, Internet bien entendu. Internet c'est l'anarchie totale. On va rentrer dans une ère où toutes les informations, toutes les données existantes, de toute société, de tout le monde, vont être accessibles à travers le net. Bien entendu avec des systèmes de protection. Donc la personne qui sera capable d'accéder et de casser tous les systèmes de sécurité aura accès à toutes les informations. Donc aura le pouvoir absolu. Il existe des terroristes en informatique, mais qui eux ont vraiment uniquement un but. Le but c'est de faire du mal. C'est-à-dire qu'ils vont se connecter sur une banque, sur des bases de données, ils vont détruire les données, ils vont supprimer toutes les données. Moi, je connais des personnes qui sont des génies, qui sont des dieux en informatique, mais réellement des dieux, moi, des gens que je respecte, que je suis adulte, quoi. Par contre, ces personnes n'ont pas obligatoirement des activités illégales. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont ces possibilités, mais qui n'ont pas obligatoirement l'intention de le faire. Ils me disent, ce qui nous gêne, c'est que nous, on est capable de faire des choses. On est capable de détourner les systèmes de sécurité à un point tel que personne ne peut l'imaginer. Par contre, ils ont inventé les casquettes molles, ça leur a fait des vacances, quoi.
La petite ville américaine, on la retrouve aussi sur Internet, en 3D et en temps réel, peuplée par les avatars des personnes connectées. Alpha World est encore au stade expérimental, mais il préfigure déjà ce que pourraient devenir les communautés virtuelles. Comme aux États-Unis, pour y entrer, il faut remplir une fiche et recevoir un numéro d'immigration. Il faut aussi respecter la constitution, la netiquette et apprendre à se comporter en bon citoyen d'un meilleur des mondes à Elsclay. La cybernétique, la science de la communication, est né dans les années 40 aux États-Unis, en partant du principe que plus on communiquerait, moins l'Holocauste aurait de risque de se reproduire. Philippe Breton, auteur d'un essai sur l'utopie de la communication, pense que l'utopie cyber peut aussi aboutir à son contraire.
L'univers cyber vient de cybernétique. Cybernétique, c'est une vieille histoire. La cybernétique a été inventée il y a un demi-siècle par des mathématiciens, par des scientifiques, qui voulaient effectivement transformer le monde, transformer la société. Et ce sont eux qui ont imaginé que la société pouvait devenir une société harmonieuse, une société de communication, grâce à des nouvelles technologies. Et ce sont eux qui, non seulement inventent la cybernétique, mais inventent aussi les techniques, dont l'ordinateur et les réseaux, qui devraient permettre, qui devaient permettre, selon eux, de créer une société. Donc c'est une utopie. C'est une utopie. Changer la société, changer l'homme, construire un monde plus harmonieux, dans lequel les hommes communiqueraient librement. Alors, on voit bien comment des scientifiques se projettent dans l'univers politique, comment des scientifiques veulent faire, avec les outils qu'ils donnent à la société, de la politique. C'est pas si simple de changer la société. L'idéal cybernétique, c'est l'idéal d'une société ouverte, d'une société transparente, dans laquelle les informations circulent librement, dans laquelle les informations, comme disait Norbert Wiener, ne sont pas une marchandise. Alors c'est un idéal qui, dans notre société aujourd'hui, bien sûr, ne peut pas se développer comme il le voudrait. Notre société est une société marchande, c'est une société libérale, dans laquelle les informations sont payantes, dans lesquelles les informations deviennent petit à petit une marchandise. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une contradiction entre le monde cybernétique, le monde de ces nouveaux outils, qui veut que tout soit ouvert. Les pirates informatiques veulent que le monde soit ouvert, que les réseaux soient ouverts, que le téléphone soit gratuit. Et puis cette société dans laquelle tout a un coût, cette société marchande, régie par les lois du marché. Donc il y a une contradiction, et on peut dire que l'utopie de la communication n'a pas abouti, même si aujourd'hui ces techniques sont présentes dans notre vie quotidienne. Peut-être que les outils de communication risquent d'encourager certaines tendances xénophobes. Alors c'est paradoxal, parce que les outils de communication permettent de communiquer, la xénophobie c'est le rejet de l'autre. Mais c'est paradoxal parce que, au fond, les réseaux de communication permettent de rester chez soi et de communiquer avec l'autre, pourvu qu'il reste loin, pourvu qu'il reste à sa place. Alors on est une société qui est fortement communicante, mais faiblement rencontrante. On rencontre peu physiquement. Alors, je crois que ce ne sont pas les nouvelles technologies qui provoquent le rejet de l'autre, ce ne sont que des outils. Mais dans une société où le rejet de l'autre se développerait, où la xénophobie se développerait, on prend le risque que les outils de communication puissent permettre de laisser l'autre à distance et encourage ce sentiment, au fond, de repli sur soi, de pli dans une espèce de bulle technique que les outils encourageraient. Alors, c'est vrai que les nouvelles technologies ne sont pas pour tout le monde. Et si l'on regarde à l'échelle planétaire, d'ailleurs, on voit bien que ce sont des technologies pour le Nord, et ce sont des technologies auxquelles le Sud aura très très peu accès. Donc on risque, avec ces nouvelles technologies, mais non pas de leur fait, c'est parce que notre société est inégalitaire, on risque de creuser encore les fossés, et on risque de générer une nouvelle catégorie d'exclus, qui seraient les exclus, cette fois-ci, de la communication, et non plus seulement des exclus de l'écriture ou des exclus économiques, mais des exclus tout simplement des possibilités de communiquer avec autrui.
Regardez les images de ces petites villes américaines. On s'y croirait. Et pourtant, Parasite, qui va bientôt sortir, est un jeu français de Virtual Studio. Pourquoi ? Parce qu'un jeu se vend sur le marché mondial. Pour s'adresser à tous les pays et même à nos voisins, il vaut mieux passer par les États-Unis. Là, c'est sûr, tout le monde connaît. Et maintenant, la surprise.
Bonsoir, good evening, guten Abend, willkommen, welcome. Le cyber n'est qu'un énorme complexe hyperadditif, une machine à abrutir les foules. Quand les nouvelles technologies de pointe auront fini d'envahir le monde, elles ne laisseront derrière elles que des foules amorphes, hypnotisées, béates et paranoïaques. Bref, le lavage de cerveau par le cyber, c'est ce que nous allons, mon équipe de chercheurs japonais et moi-même, démontrer et prouver scientifiquement grâce à notre adorable cobaye de laboratoire. Tout de suite, la première expérience. Nous plongeons le sujet dans 25 heures de Street Fighter non-stop.
vous êtes là.
Comment s'est traduite la portée des écrits de Valérie Solanas chez les femmes américaines au début des années 70?
Alors, deuxième niveau, juste après demain qui fait pimpon, tu attaques les cavaliers avec la potion de vie que tu as récupérée dans la grotte.
De la technologie à la techno, il n'y a qu'un pas que beaucoup franchissent sans réfléchir. Erreur. Nous allons étudier la décérébration engendrée par les rêves techno. Notre sujet subit donc actuellement, dans notre laboratoire contigu, une rêve hardcore. Citez-nous 62 films de Jeanne Moreau.
Dis donc, t'as super beau, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est hyper cool, fun.
Pour vivre pleinement en cyber, il vous faut être entouré d'un maximum d'appareils électroniques, tous électriques. À un moment de saturation électrique, la prise de terre, ce sera vous. Une baguette de pain en Ukraine au début du siècle. Quel est l'isotope de l'atome du Nesquik? Les conclusions scientifiques de cette session d'expérience sont sans appel. Le Cyber est bel et bien une énorme machine à abrutir.
Sans transition.
Cyberculture, c'est aussi sur Internet, sur le web C+, et c'est à la télé samedi 24 février. D'ici là, bon jeu chez vous.
Bon, c'est pas tout ça, les fêtes c'est bien, mais après, faut nettoyer.